affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Les livres, les romans surtout, devinrent mes compagnons d'infortune. Ils apportaient à mon adolescence tourmentée, angoissée, les lumières d'une vie idéale. Ce que je cherchais en eux, outre l'évasion par le rêve, c'était ce qu'on demande d'ordinaire aux cartomanciennes et aux voyants, de me dire mon avenir, de me donner les recettes qui permettaient de maîtriser ma vie, moi qui ne maîtrisais rien, que la plus petite amourette submergeait. D'une certaine façon, mes lectures étaient intéressées. Elles le sont restées. Je demandais au livre « Comment fait-on pour vivre, pour aimer, pour être heureux ?» C'est ainsi que Jean-Marie Rouard introduit son dernier ouvrage, une magnifique anthologie de la littérature, mais une anthologie d'un genre un peu particulier, car si elle est savante, elle n'a rien de docte. C'est plutôt l'œuvre d'un amoureux des livres, un amoureux qui, Dieu merci, n'a rien de jaloux, puisque l'ouvrage vise justement à nous faire partager ses élans et ses enthousiasmes en nous présentant plus d'une centaine de livres qu'il appelle ses amis. Ce livre n'est donc pas une anthologie au sens propre du terme, ce serait plutôt une invitation, comme si Jean-Marie Rouard nous prenait par la main pour nous présenter Rabelais, Bernanos, Morand, Fitzgerald, Cocteau, Blondin, Dostoïevski et bien d'autres. C'est comme s'il nous disait de ne pas nous laisser intimider et d'aller à leur rencontre avec joie, et d'un cœur léger, et surtout sans prévenance. Dans ce vaste continent, ce vaste univers, que dis-je, qu'est la littérature, il faut certes se garder des GPS, mais un bon guide, un guide qui vous laisse votre liberté de flâner, de prendre les chemins buissonniers, qui vous autorise à faire des détours, des allers-retours, et vous encourage à tracer votre propre voie, est une bénédiction. Or ce guide, je pense que vous l'avez compris, nous avons aujourd'hui la chance de l'avoir dans notre studio. Jean-Marie Rouard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Puis-je d'abord vous demander la façon dont vous qualifieriez vous-même ce livre qui est un petit peu étrange, puisqu'il y a de l'anthologie, mais aussi de la présentation d'auteur. J'ai dit que c'était une invitation, on aurait pu aussi parler d'hommage, mais je vous laisse la parole. Comment le voyez-vous ?
Oui, c'est très bien, une invitation à la lecture, un livre d'amoureux de la lecture. C'est le contraire d'un livre, disons, de professeur, c'est dans ce sens. Moi, je dois beaucoup à mes professeurs. Mais dans ce sens que c'est un livre plutôt d'amoureux, de quelqu'un qui, disons, ne désire pas passer des examens, mais essaie de plutôt de comprendre la vie. Je crois qu'il y a plusieurs fonctions dans la littérature. Elle fait partie de l'apanage, de l'honnête homme, bon, de quelqu'un doit être cultivé. Bon. Ça, c'est très bien, c'est très bien. Puis, il y a une autre conception de la littérature qui est la mienne, qui est d'essayer de comprendre la vie par ce trait d'union, par ce moyen que nous donne l'esprit. Et c'est une chance. C'est une chance dont j'ai bénéficié, parce que moi-même, je suis un miraculé de la culture générale, puisque à l'âge de mon jeune âge, vers l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans, j'étais absolument nul en classe. Et c'est grâce à la littérature, grâce aux livres, que finalement je me suis un peu amélioré, j'ai réussi à comprendre la vie. Et ils m'ont sauvé. Ils m'ont sauvé à la fois du désespoir, ils m'ont permis de... ils ont été des formidables excitateurs, parce que les livres vous excitent. Mais ça, on peut en reparler, c'est-à-dire qu'ils m'ont... montrer la vie que je découvrais à travers Stendhal, Le Rouge et le Noir, ou à travers Balzac, Madame de Mortsauf. Ils m'ont donné des images de femmes merveilleuses que j'avais envie de rencontrer et de conquérir. Et puis, c'est l'autre aspect de la littérature, ils m'ont consolé de mes peines, parce que la littérature, on l'oublie trop, vous permet, quand on connaît des peines d'amour, des peines de cœur, des chagrins divers, la perte de quelqu'un d'aimer, mais aussi la perte, une souffrance, eh bien, on retrouve dans la littérature. Et moi, par exemple, je crois que j'étais plaqué par une femme, eh bien, je me précipitais et je me précipite toujours d'ailleurs, parce qu'on a beau être à l'académie, on connaît toujours des peines de cœur. Ce n'est pas un remède contre les peines de cœur. Eh bien, je me précipite dans Proust, la prisonnière, ou Un amour de Swann, et à ce moment-là, je comprends que je ne suis pas le seul à souffrir, que d'autres personnes ont souffert avant moi et qu'ils ont réussi à transmuer leur souffrance dans une œuvre d'art. Et c'est pour ça que la littérature est un formidable remède aussi contre le gâchis de la vie.
En vous entendant, il me vient une citation de pas un écrivain, mais un artiste, de Robert Filliou, qui disait « L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art ». Bon, c'est une formule qui en vaut une autre, mais
oui,
ça fait écho à ce que vous dites, non ?
Oui, je pense que l'art, ça donne à la vie, ce n'est pas contre la vie. Voilà. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que, finalement, si on est un artiste, c'est une façon de nier la vie, ce qui n'est pas complètement faux. Mais c'est plutôt de lui redonner un sens à travers l'esprit. Je crois que l'art donne de l'esprit à la vie. Et c'est pourquoi, moi, j'adore la vie, mais en même temps, c'est formidable de voir quand il pleut, par exemple, de penser à un tableau de Marquet, de voir quand on a un moment de certains paysages qui vous pensez à un tableau de Monet, ou quand je vois des gens qui fauchent, par exemple, on ne le voit plus beaucoup dans les campagnes, mais enfin, je pense immédiatement à une scène d'Anna Karénine, de Tolstoï. Donc, finalement, toutes ces réminiscences, eh bien, et qui lie la beauté à notre propre vie, je crois que c'est important. C'est important de ne pas vivre comme une bête, c'est-à-dire le nez sur ce que nous vivons, mais au contraire d'avoir cette possibilité d'avoir des perspectives. Et je crois que la littérature ouvre des perspectives. Mais en tout cas, moi, je suis pour une littérature vivante. Je suis pour... Voilà, je ne suis pas du tout pour une forme de littérature qui serait poussiéreuse, qui serait une conception, qui serait, disons, doctrinaire. Non, je suis pour essayer de relier vraiment la littérature à la vie.
Vous avez parlé de réminiscence, mais au départ, c'était plutôt une initiatique ou exploratoire. C'est-à-dire qu'on sent que vous voulez découvrir la vie à travers les livres, avant même d'avoir vécu.
Oui. Et c'est vrai que ça m'est resté, puisque je suis devenu romancier. Et dans ma vie, je cherche toujours le romanesque. Vous savez, quand je prends l'autobus, bon, je vois une jolie femme, je me dis, tiens, est-ce que je vais lui parler? Et puis si je lui parle, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons prendre un café, puis elle va me parler de sa mère, de sa grand-mère, et puis elle va me parler de ses origines polonaises. Ah ben voilà. Et subitement, on est parti dans un roman. Et c'est ce que je trouve fabuleux dans la vie, c'est que la vie est un réservoir de romance. C'est vraiment une occasion à chaque minute d'être dans une situation romanesque. Eh bien, ces situations romanesques, j'en ai fait l'essentiel de mes livres et j'en ai fait aussi l'essentiel de ma vie. Ce qui me plaît dans la vie, c'est le romanesque, c'est-à-dire l'imprévu, c'est la jeune femme qui passe, c'est voilà, l'inattendu.
Alors, ce qui est assez inattendu dans votre livre, excusez-moi, c'est une transition qui en vaut une autre, c'est la classification. Vous avez dit que vous n'aviez pas une conception doctrinaire ou, excusez-moi, académique de la littérature. C'est la classification que vous avez retenue.
Académique, c'est pas académicien.
Oui,
non, académicien, c'est très bien. Académique, c'est très mal.
Donc, dans cette classification, on s'éloigne assez largement des typologies, des catégories habituelles. Voilà, on ne parle plus, je sais pas, de classique, de moderne, de naturaliste, que sais-je. Vous avez choisi quelque chose de beaucoup plus subjectif, mais aussi beaucoup plus poétique. Je cite de mémoire vos catégories. Il y a les magiciens, les soleils païens, les cœurs en écharpe, les bourlingueurs de l'infini, les voyeurs pervers et nymphomanes, les polémistes à poil dur, ou encore, celui-là je l'aime beaucoup, les fracasseurs de vitres. Excusez-moi, si j'étais professeur à la Sorbonne, ce que je ne suis pas, je vous demanderais de vous justifier. Est-ce que vous voulez bien accepter de vous prêter à ce jeu ?
Oui, ma justification, c'est que je suis un écrivain, quelqu'un de libre, et donc je fais les choix dont j'ai envie, et je ne suis inféodé à personne. Et surtout, vous savez, c'est important d'apporter des éclairages en matière artistique ou littéraire. C'est important de dire ce qu'on pense, d'être personnel. Mais à vrai dire, les classifications, qui sont celles des manuels scolaires, elles sont très bien pour les professeurs, c'est une classification, mais elles ne correspondent absolument pas à la réalité. Vous savez, il y a beaucoup de peintres qu'on classe parmi les impressionnistes, qui ne sont pas du tout impressionnistes. Il y a beaucoup de peintres qu'on classe d'écrivains qu'on classe parmi les romantiques qui ne sont pas romantiques, de symbolistes. Vous savez, tout ça, ce sont des classifications qui ne tiennent pas la route, au fond. Je crois, d'ailleurs, on posait la question à Verlaine. On lui disait, alors, vous vous sentez symboliste ? Il dit, symboliste. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un embauche. Donc, vous voyez, je crois que chaque écrivain est une individualité qui échappe à toutes les classifications. Voilà, c'est ce que je pense. Alors donc, ce que j'ai voulu faire, moi, c'était des familles d'esprit, des familles, et j'ai voulu le faire avec des titres un peu amusants, parce que j'ai voulu montrer que ce que j'aime, moi, dans la littérature, c'est la variété. Alors, en littérature, vous avez tout. Vous avez des beaux, vous avez des laids, vous avez des gens vulgaires, vous avez des gens très élégants, vous avez des aristocrates, vous avez des prolétaires, vous avez des hétérosexuels, des homosexuels, des nymphomanes, comme Anaïs Nin. Vous avez toutes les catégories humaines. Et c'est vraiment merveilleux de se promener dans cette galerie de gens qui vraiment représentent, on pourrait dire, toute la variété de l'humanité. Et ça procure une grande satisfaction parce qu'au fond, on n'a plus envie de les juger. On a envie de les aimer pour ce qu'ils sont. Et c'est, de ce point de vue-là, une grande leçon morale. C'est-à-dire, au lieu d'être là dans le jugement, de dire un tel est bien, un tel n'est pas bien. Non, je crois qu'il faut faire un effort pour comprendre l'art et ne pas comprendre les artistes uniquement en fonction de hiérarchies trop lourdes. Ce n'est pas les Jeux olympiques, la littérature ou la peinture. C'est une tentative pour essayer de faire quelque chose de bien. Voilà. Et moi, j'ai placé à côté de géants. C'est vrai, Tolstoï, c'est un géant. Balzac, c'est un géant. Stendhal aussi. Eh bien, j'ai placé des écrivains qui sont moins connus, comme Paul Jean Toulet, comme Maurice Sachs, comme Malcolm de Chazal, comme André Rouvert. Voilà. Parce qu'ils ont droit, ils font partie, et après tout... Vous savez, le lecteur a le droit d'être subjectif. Il a le droit de dire « je préfère Paul-Jean Toulet à Balzac ou à Proust ». Après tout, c'est son droit. Ce qu'il faut, ce qui est important en matière littéraire, c'est de trouver en quelque sorte l'âme sœur. Voilà. Et quand on trouve l'âme sœur, quand on tombe amoureux, eh bien, vous n'avez pas à vous justifier. Vous n'avez pas à dire « ben non, cette femme, elle me plaît ». On dit « mais elle est moche ». Non, mais non, mais moi, elle me plaît. Donc, et puis en littérature, c'est la même chose. On n'a pas à se justifier, finalement, et on peut prendre un très, très grand plaisir avec des auteurs qui ne sont, je ne dis pas mineurs, mais qui sont moins consacrés.
C'est quand même le sentiment que vous prenez un malin plaisir à brouiller les cartes, mélanger les catégories, creuser des passages secrets entre ces êtres. Je prends un exemple. Bernanos se retrouve parmi les fracasseurs de vitres en compagnie de qui ? Rousseau. Mauriac, lui, est parmi les modernes enragés, aux côtés de Nizan. Enfin, je sais pas, c'est un compagnonnage un peu... Enfin, ce sont des compagnonnages un peu étonnants, non ?
Ben oui, j'ai essayé, comme vous l'avez dit, de ne pas être académique. Parce qu'académique, ça veut dire mortel d'ennui. Ce qui n'est pas un académicien, parce que les académiciens sont au contraire
très... Je ne savais pas qu'académique voulait dire mortel d'ennui.
Non, c'est vrai. Je crois que c'est important, c'est de donner envie de lire. Et moi, j'ai une dette vis-à-vis de la littérature, vis-à-vis des écrivains. Et j'ai voulu écrire le livre que j'aurais voulu lire quand j'avais 18 ans ou quand j'avais 15 ans. C'est-à-dire vraiment me donner quelqu'un qui m'aurait donné des conseils, mais des conseils affectueux, non pas des ordres, non pas des oukases, non pas des... Non, ce que j'aurais voulu, c'est un conseiller affectueux qui m'aurait dit « voilà, je te laisse choisir, tu peux choisir entre beaucoup d'écrivains et je te donne des exemples ». Parce que ce qui est important, c'est pas seulement... Moi, je fais un texte de présentation de chaque écrivain, un texte que j'essaie d'être un peu vivant et amusant, mais en même temps, je donne un extrait de son livre, ce qui fait que les gens ne sont pas déçus. Quelquefois, vous savez, dans les journaux, on voit des articles dithyrambiques sur un auteur, sur un livre, on lit, c'est un chef-d'œuvre. Vous allez acheter le livre, dans la librairie, et puis vous vous rendez compte, vous êtes tombé du cinquième étage.
C'est l'ancien rédacteur en chef du Figaro littéraire qui parle.
Oui. Eh bien, vous tombez du cinquième étage et vous vous rendez compte que le livre est complètement nul, qu'il ne vous plaît absolument pas. Donc ça, c'est un grand risque au cours quand on va acheter un livre dont on a entendu dire beaucoup de bien. Eh bien, moi, non. Moi, je dis du bien d'un livre et en même temps, je donne un extrait comme ça. On peut voir si cet écrivain partage réellement votre sensibilité.
Il y a ce qui est frappant, ce qu'on arrive à percevoir, c'est ce jeu de correspondance qui vous est propre. C'est une somme qui est subjective, vous le dites d'emblée, on le comprend très vite, même en parcourant le sommaire. Est-ce ainsi que vous avez appris à lire et ensuite à écrire ? C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que l'entrée dans cet univers qu'est la littérature, on tient un peu une pelote, on découvre un auteur qui lui-même en ramène vers un autre. Est-ce que finalement, c'est pas en quelque sorte votre itinéraire propre qui se retrouve, une partie du moins, parce que sinon j'imagine qu'il faudrait une bibliothèque entière, qui se retrouve résumé en un volume ?
Tout à fait, mais... L'art, c'est une forme de désordre dans l'art, avec un fil conducteur. Et ce fil conducteur, c'est le talent et c'est l'esprit. Mais je vais vous dire, parfois, j'ai l'impression qu'au fond, il y a eu un seul livre. Un livre qui serait parti de la Bible, qui aurait continué avec Homère, et qui serait poursuivi et qui aurait des milliers de visages. Vous voyez, comme un arbre avec des rameaux. Et tous ces écrivains ont participé à l'écriture de ce grand livre, qui s'appelle Cervantes, Montaigne, Proust, Chateaubriand. Il me semble qu'ils vont tous dans le même sens. Dans le même sens qui est à la fois créer de la beauté, aller essayer de lutter contre ce gâchis qui est toute vie humaine. C'est vrai, ce gâchis de la souffrance, ce gâchis du malheur, qui ne sert à rien. À quoi sert-il, ce malheur ? Sinon, à, justement, pour les écrivains, pour les artistes, à donner une sorte de dynamique à leur œuvre. Et eh bien, je crois que tous ces écrivains, ils ont beaucoup de points communs. Et en tout cas, tous les écrivains de mon livre pourraient se rencontrer, même ceux qui sont, comme Homère, du 8e siècle avant Jésus-Christ, mais s'ils rencontraient Balzac, s'ils rencontraient Tolstoï, je crois qu'ils s'entendraient parfaitement bien, parce qu'ils ont tous eu pour objectif de montrer aux hommes, au fond, comment vivre, et ils ont, à travers une morale qui est la beauté. Et particulièrement les Français, parce que la France a hérité de ce passé gréco-romain où l'esthétique et l'éthique sont extraordinairement liées. Et j'aime beaucoup cette phrase de Romain Gary qui disait « Au fond, pour moi, je n'ai pas de... Ma seule morale, c'est mon esthétique. Ce que je trouve laid, eh bien, je ne le fais pas. Mais je ne le fais pas pour des raisons morales, je le fais parce que c'est esthétiquement laid. »
Le vrai, le bien et le beau se confondent donc.
Voilà, exactement, comme chez les Grecs.
Et la beauté sauvera le monde ?
Oui, je pense que la beauté est un élément pour sauver le monde. Je pense que, en tout cas, individuellement, c'est vrai qu'on se rend compte que dans les difficultés et dans la médiocrité, je crois que ce dont nous souffrons, c'est bien sûr le malheur des autres, mais aussi la médiocrité ambiante. Quand on voit ces conversations complètement débiles qu'il y a souvent à la table, même dans les tables familiales, même dans les tables d'académiciens, il peut y avoir des conversations quelquefois qui sont un peu au ras des pâquerettes. Eh bien, subitement, parler de littérature, parler d'art, c'est ce qui fait, finalement, c'est ce qui apporte une élévation. Voilà. Et je crois que l'art nous est nécessaire pour donner une forme d'élévation à notre vie.
Les héros littéraires, les personnages que vous avez croisés sont donc comme des formes de modèles vers lesquels il faudrait tendre. C'est ce que vous voulez nous dire.
Modèles artistiques, j'entends, parce que les écrivains ne sont pas forcément des modèles sur le plan de la morale. Ils ne sont pas forcément fidèles à leurs épouses. On voit plutôt la littérature, c'est plutôt une école de l'adultère. Enfin, c'est terrible. À la fois, la plupart des romans du 19e siècle tournent autour de l'adultère. Et quand Madame de Mortsauf ne cède pas à l'adultère, eh bien, elle en meurt. Vous voyez, donc, je ne sais pas où est la morale dans ce domaine. Non, je crois que l'enseignement de la littérature, c'est cet enseignement de voir la possibilité extraordinaire. Vous imaginez un jeune homme de 18 ans, il est seul, ou une jeune femme, une jeune fille, ils sont là, ils sont seuls au fond de leur province, ou même on peut être à Paris et se sentir très seul. Et subitement, il se dit « je ne connais personne, personne ne me comprend ». Et subitement, eh bien, ils prennent un livre, et ce livre, c'est Montaigne, c'est Voltaire, c'est Rousseau, c'est Chateaubriand, Maupassant. Et là, il rencontre un esprit supérieur qui va, à travers une forme merveilleuse, leur parler. Et leur parler d'une manière profonde, spirituelle. Et ils vont subitement avoir la révélation qu'ils ne sont pas seuls et que quelqu'un les comprend. Et ça, moi, je trouve ça prodigieux.
Alors pour vous, si j'ai bien compris, en lisant votre préface, ça a été Stendhal, le premier, du moins.
Le premier, ça a été Stendhal, et ça a été aussi lié à ma mère. C'était lié à ma mère, parce que j'avais une mère qui était merveilleuse, et j'écoutais avec elle une émission de radio, qui était sur France Inter, qui s'appelait Rendez-vous à 5 heures. Et là, il y avait une comédienne, une pensionnaire de la Comédie Française, Nathalie Dorval, qui lisait un livre. Et à la fois ce lien entre cette évasion à travers le roman qu'elle lisait, la présence de ma mère qui était merveilleuse, et au fond, dans ma vie, tout ce que j'ai aimé était lié à quelque chose de sentimental. Voilà, je fais cette confidence.
Vous parlez même de la voix chaleureuse de cette sociétaire de la Comédie Française, voilà, qui était d'origine russe.
Qui était d'origine russe, oui, qui me faisait rêver. Eh bien, donc, je crois que le sentiment joue un très grand rôle. Et certainement, c'est lié à la présence de ma mère, si j'ai tant aimé la littérature. Ça a été l'amorce de ma découverte.
Vous venez de nous faire une confidence. Vous n'en êtes pas avare dans le livre, que lorsqu'on parle de ses lectures favorites, lorsqu'on les qualifie d'amis et qu'on les livre ainsi en place publique, on se dévoile également. Dans votre préface, à propos de Stendhal, vous avez l'honnêteté de dire que... le moteur de votre découverte de la littérature, c'était des thèmes naturels à l'âge de l'adolescence, l'amour, mais aussi l'ambition. D'où, bien évidemment, l'éblouissement pour Stendhal. Quelle forme prend cette ambition ? Je crois venir de comprendre qu'en fait, il s'agit d'une exigence par rapport à soi-même et par rapport à ce qu'on découvre dans sa lecture. La littérature tire vers le haut par nature ?
Vous savez... La littérature, surtout celle du 19e siècle, c'est la littérature de l'arriviste. Moi-même, j'étais un peu arriviste. Un arriviste sentimental, mais un arriviste. Vous savez, on n'est pas à l'académie si on n'a pas eu envie d'arriver. Disons, bien sûr, il y avait... Tout se mêlait, parce que dans l'adolescence, tout se mêle. Il y a le désir de ressembler à des gens qu'on admire, le désir de devenir un écrivain, ce qui est déjà une ambition folle. Et puis le désir de socialement, de progresser, de rencontrer des comtesses, des duchesses, des princesses, et puis si possible être aimé d'elles, et puis de rencontrer des gens fameux, des ministres, des académiciens.
Jusque-là, je comprenais, mais alors au ministre, je commence à décrocher.
Des académiciens, si vous voulez, des gens prestigieux. C'est ça un peu l'arrivisme. Et au fond, moi, j'ai cet arrivisme. Je l'ai cultivé dans la littérature parce que ça me faisait rêver, toutes ces femmes de l'aristocratie que décrivait Balzac. C'est quelque chose qui vous donne, si vous voulez, vraiment envie de rejoindre les héros, les Rubempré, les Rastignac. Voilà. Donc, moi, je crois que l'ambition, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et puis après, on se rend compte que il y a une autre forme d'ambition qui détruit l'ambition sociale, qui est allée au-delà. C'est, je dirais, presque une ambition spirituelle. Et c'est celle que décrivait Barrès quand il disait « tout obtenir afin de pouvoir tout mépriser ». C'est-à-dire que Bien sûr, il vaut mieux déjà se purger de ses désirs sociaux pour pouvoir accéder à quelque chose de supérieur, qui est en effet la vie spirituelle, se rendre compte que les vraies valeurs, les vraies richesses, pour parler comme Giono, sont ailleurs.
Lorsque je vous entends parler du monde sur lequel ouvrent les fenêtres, les portes de la littérature, il est assez peu question de l'époque actuelle. Est-ce qu'un des pouvoirs de la littérature n'est pas aussi de nous faire échapper d'une époque qui, somme toute, finalement, est un petit peu dépressive, éventuellement médiocre, ou du moins en a-t-on l'impression, lorsque vous avez évoqué les gens que vous vouliez rencontrer grâce à la littérature, Rubin Pré et autres, ça nous fait voyager dans le temps aussi. Hein.
Je crois que toutes les époques sont médiocres quand on les vit. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est le passé qu'on imagine. C'est l'imagination qui donne du prix aux choses, qui lui donne sa rareté et sa valeur. Moi, c'est vrai qu'il y a des choses qui me déplaisent un peu dans notre époque. Bon, il y a une forme de vulgarité, bon, il y a une forme d'oubli. C'est vrai, il y a une forme d'oubli de l'art, de la littérature. On ne place plus la littérature comme autrefois au centre des préoccupations. Mais en même temps, je suis de mon époque et je vais vivre mon époque. Et je crois que toutes les époques ont été difficiles, vous savez. Les époques des guerres que nous avons vécues, les époques où les Français ne s'aimaient pas. Donc je crois qu'il faut essayer de tirer de son époque le meilleur, essayer de la comprendre. Mais il me semble que ce qui est passionnant dans la littérature, c'est que justement, on croit parfois que c'est la description d'une époque qui rend la littérature intéressante. Je ne le crois pas. On dit Balzac représente bien la société de la Restauration. On dit Houellebecq décrit bien la société contemporaine. Eh bien, moi, je ne le pense pas. Je pense que un grand écrivain, c'est un visionnaire, c'est un poète. C'est quelqu'un qui, en effet, comme Tolstoï, la société russe, vous montre des personnages qui évoluent dans la société. Mais d'une certaine façon, ce qui est passionnant, c'est qu'ils ont saisi chez tous leurs personnages quelque chose d'éternel, des archétypes. Et au fond, c'est les personnages qu'on retrouve, que ce soit Ulysse, d'Homère, que ce soit tous les grands personnages, tous les grands héros de romans. Ce qu'il y a de passionnant, c'est que finalement, ils ne vieillissent jamais. Ils sont immortels. C'est ce qu'on dit des académiciens. Mais enfin, beaucoup de choses prouvent le contraire. Mais justement, c'est cette faculté de donner une éternité aux choses. Voilà, pour moi, c'est un écrivain, c'est quelqu'un qui donne une éternité aux choses. Et comme vous le savez, les choses sont très périssables, et même les civilisations. Eh bien, cet écrivain, je trouve que c'est formidable de pouvoir, à travers la description de son époque ou de personnages qui ont l'air d'être vivants autour de lui, eh bien, il réussit à les pérenniser. Voilà.
Si vous voulez bien, on va s'écarter un petit moment du livre. J'aimerais vous demander, dans les écrivains actuels, les contemporains, il y en a un certain nombre dans l'ouvrage, Houellebecq que vous avez cité, Jean d'Ormesson aussi, quels sont ceux qui, aujourd'hui, immergés dans notre époque, parviennent à cet exercice difficile qui consiste à trouver de l'éternel dans le conjoncturel.
Là, vous me demandez le jugement de Paris. Vous savez que c'est très mal terminé pour Paris. Non, je veux pas. Je vais essayer de ne pas trop juger les écrivains.
Non, mais pas juger, nous donner des pistes.
Enfin, moi, ceux que j'ai cités dans mon livre, pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration, qui m'ont influencé, il y a Michel Déon. Bon, c'est pas parce qu'il était à l'Académie. Je l'ai connu en 1969, j'étais le voir dans l'île de Spetzé, alors qu'il était très loin de l'Académie, et d'avoir la grande notoriété qu'il a aujourd'hui. Mais quelqu'un comme Modiano, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Donc, il y a beaucoup d'écrivains aujourd'hui. Et puis, vous savez, c'est très difficile, dans une époque, de déceler, finalement, les écrivains qui vont avoir, si vous voulez, une chance. Très souvent, on vous pose la question, qu'est-ce qui va rester de la postérité? La postérité est parfois très injuste. Ce n'est pas une question uniquement de talent. Il y a des écrivains qui ne paraissaient pas devoir rester dans la postérité. Vous savez, qui aurait dit que Drieu La Rochelle serait un écrivain qu'on lirait encore aujourd'hui ? On pensait que, eh bien, quelqu'un comme Martin Dugard avait beaucoup plus de chances de franchir la postérité. Et c'est la même chose pour Anatole France, qui était prix Nobel, qui était vraiment un écrivain révéré et qui paraissait devoir être toujours lu. Mais ce n'est pas le cas. On le lit très rarement. C'est dommage, d'ailleurs, parce qu'il a écrit un magnifique livre sur la Révolution qui s'appelle « Les dieux ont soif ». Et puis c'est la même chose de Renan, c'est la même chose de Monterland, qui est un magnifique écrivain et qu'on ne lit pas. Et c'est à ces écrivains que j'ai voulu aussi rendre justice.
Vous pensez qu'on ne lit plus Monterland ?
Non, on ne lit plus, hélas, et on le joue très peu, d'ailleurs, ces pièces qui sont d'un style royal.
Dans vos catégories, on sent aussi comme le choix que vous avez fait, comme un fil rouge, c'est celui d'une forme de mélancolie, de nostalgie. En fin de compte, on a le sentiment que tous ces êtres sont un petit peu, eux aussi, mal dans leur temps. Je reprends les titres. Les amants malheureux de l'histoire. Bourlingueurs de l'infini. L'infini, les assoiffés d'absolu. Fracasseurs de vitres. Roman des origines, bon, ça c'est autre chose. Les polémistes à poil dur, les modernes engagés. On a l'impression que tous ces gens sont à côté de la vie telle que ça déroule de façon prosaïque.
Oui, mais c'est propre aux artistes. Un artiste, c'est quelqu'un qui n'est pas tellement bien dans sa vie. La vie ne lui suffit pas. Il lui manque quelque chose. Et c'est le sentiment de l'incomplétude de sa vie qui le pousse à essayer de transmuer la réalité et finalement qui ouvre la porte de ses rêves. Je crois que ça a toujours été le cas, vous savez, à toutes. C'est vraiment la démarche littéraire, c'est la démarche de quelqu'un qui souffre de, à la fois de l'époque, mais qui souffre aussi par un excès de sensibilité. C'est quelqu'un de très sensible. Que moi-même, je partage un peu cette façon d'être. C'est à peu près normal, parce que je suis moi-même écrivain, donc je le ressens. Mais en même temps, cette mélancolie qui traverse toute la littérature, eh bien, moi, j'ai essayé d'y ajouter un peu d'humour. D'ailleurs, pardon, mais je veux dire du bien de moi. Je connaissais bien Simon Leys, vous savez, le grand écrivain, et il avait lu quelques-uns de mes livres. Et il me disait, vous êtes un romantique, mais bizarrement, vous êtes un romantique avec de l'humour, ce qui est complètement contradictoire. Parce qu'ou bien on est romantique, ou bien on a de l'humour. Et j'ai trouvé que cette remarque était très juste. Je suis un romantique et essaie d'avoir un peu d'humour. En tout cas, dans ce livre, voilà, où je parle de beaucoup d'écrivains qui, par essence, sont mélancoliques et souvent romantiques, eh bien, j'ai essayé de les traiter avec humour, parce que l'humour donne un peu des épices, voilà, à la mélancolie.
Oui, l'ensemble du ton est plaisant, souvent léger, amusant, vous l'avez dit, ce n'est pas y faire injure, puisque vous dites que vous y avez mis de l'humour, mais on sent quand même poindre une forme de... Non pas de sérieux, surtout pas d'esprit de sérieux, mais de gravité.
Et même de désespoir. Je crois que dans la littérature, il y a une forme de désespoir surmonté. Bon, on ne va pas se dissimuler les choses. Il y a beaucoup d'écrivains qui sont suicidés. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont été en pleine dépression. Bon, mais en même temps, ils l'ont surmonté. Et j'ai le cas de beaucoup de gens. Vous savez, beaucoup de gens dissimulent leurs souffrances. Et le propre des écrivains, c'est que ces souffrances, ils les rendent publiques. Alors évidemment, on le voit, on sait tout ce qui s'est passé chez eux, parce qu'ils l'ont raconté. Mais je crois que c'est ce qui est magnifique dans ce combat humain mené par les écrivains, c'est qu'ils ont réussi à dominer ces souffrances et à leur donner un sens. Et d'une certaine façon, ils sont... C'est pour cela qu'ils sont fraternels, je crois. Ils sont fraternels et on se retrouve avec eux finalement dans un territoire amical. Voilà. Et, Et s'ils peuvent nous aider à vivre, s'ils peuvent être des consolateurs, eh bien, je trouve qu'ils n'ont pas raté leur entreprise.
Et d'ailleurs, un autre fil rouge, c'est l'amitié. Alors ça, c'est probablement un des mots qu'on retrouve le plus souvent. Enfin, j'en ai le sentiment, en tout cas, au fil des pages, c'est celui d'amitié. Et des écrivains qui mettent l'amitié au rang des valeurs, finalement, les plus importantes. Je sais pas, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Nîmes, bien sûr, mais il y en a bien d'autres.
Bien sûr.
Ce terme.
Non, mais...
On a parlé de l'amour, mais l'amitié, c'est important.
Oui, bien sûr. Je pense que l'amitié joue un grand rôle dans la vie, c'est évident, et donc pour les écrivains. Mais moi, j'emploierais le mot vis-à-vis des écrivains, où j'ai eu beaucoup d'amis parmi les écrivains, bon, comme Michel Déon, Jean d'Ormesson. Mais je pense que le plus important dans sa relation avec les écrivains, c'est peut-être le terme de fraternité, c'est-à-dire le sentiment qu'à travers leur œuvre, eh bien, il y a une résonance qui fait qu'on a l'impression d'appartenir à une même famille, une vaste famille, puisqu'elle remonte très très loin, elle remonte, comme je l'ai dit, à la Bible et à Homère. Et c'est ce sentiment, moi, qui me frappe quand je pense à la littérature, à tous ces écrivains que j'ai décrits dans mon livre. J'ai pour eux un sentiment de grande fraternité.
Au détour de certaines pages, vous évoquez Borges, le mythe de la bibliothèque universelle, et la difficulté qu'il y a à surmonter, le sentiment de finitude, le sentiment que tout a déjà été dit, et qu'on serait donc, lorsqu'on est écrivain aujourd'hui, contraint d'être limité au rôle de commentateur ou de reflet. Est-ce que ce sont des choses qui vous traversent l'esprit ? Est-ce que de temps à autre, vous avez le sentiment que ça y est, tout a été dit ?
Bien sûr, mais ça, vous savez, c'était déjà ce que pensaient les gens à l'époque de Virgile, vous savez. Tout a été dit. La Bruyère, au début des caractères, a écrit un très beau texte. Non, depuis que les hommes vivent et qu'ils écrivent et qu'ils pensent, tout a été dit. Il faut beaucoup de présomption pour être un peintre, pour être un écrivain. Il faut croire qu'on a quelque chose à dire qui n'a pas été dit. Moi, je crois que si on se pose la question, si il vaut mieux éviter d'être un écrivain. Le paradoxe de l'écrivain, c'est qu'il est, je crois, à la fois très orgueilleux, très modeste, et qu'il sent qu'il a quelque chose à dire. Non pas parce que ça n'a pas été dit, mais que ça n'a pas été dit de la façon dont lui pourrait le dire. Voilà. Et parce que, vous savez, on se répète beaucoup en matière littéraire. Les gens se répètent beaucoup sur ce qu'on dit sur l'amour éphémère. Eh bien, on en a beaucoup parlé. Seulement, on n'a pas trouvé la phrase de Proust qui dit « L'amour, c'est le temps, l'espace et le temps rendu sensible au cœur. » Ça, on ne l'avait jamais dit. On avait dit beaucoup de choses sur l'amour de la mer, mais personne n'a écrit la phrase de Romain Gary « Avec l'amour d'une mer, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. » Et puis, on a beaucoup parlé de l'amour, mais on n'a jamais dit, comme Chateaubriand, au fond, faites que la jeunesse demeure, que le cœur ne se puisse lasser et vous reproduirez le ciel. Eh bien, toutes ces phrases, vous voyez, que je cite de mémoire, eh bien, elles montrent que, au fond, tous les thèmes ont été abordés, mais que chaque écrivain, quand c'est un véritable écrivain, l'aborde à sa manière et renouvelle, au fond, cette façon de voir et de sentir. Et il y a un perpétuel renouvellement. Et je crois qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui croit pouvoir, qui en a la certitude, de pouvoir apporter sa vision des choses, même si il n'a pas la force et le talent de Tolstoï ou de Balzac.
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il est beaucoup plus confortable d'être un lecteur. Car là, on se dit qu'une vie n'y suffira pas à découvrir tout cela. Lorsque vous égraignez ces citations sur l'amour, j'avais envie de ne plus vous poser de questions. Vous laissez continuer comme ça, nous donner des pistes de lecture. Ça me fait penser qu'il a dû être quand même difficile de faire cette sélection ? Ça doit être un crève-cœur, non ? Là, il y en a 100, 120.
Non !
Il y en a qui ont été laissés sur le bord de la route, forcément.
Mais non, parce que dans la passion, ce qui est formidable, c'est que dans la passion, vous êtes guidé, les choses s'imposent à vous. Moi, j'ai vraiment pris les écrivains que j'aimais. Et bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, parce qu'au fond, j'aime tous les écrivains. J'aime tous les écrivains, je trouve que c'est formidable. Quelqu'un, et même les écrivains qui ne sont pas publiés, vous savez, je trouve que c'est formidable, ces gens qui prennent la plume, qui ont envie de rencontrer un lecteur, qui ont envie d'exprimer ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. Mais moi, je trouve ça magnifique. Alors bien sûr, il y a une sélection, il y a des gens qui sont publiés, des gens qui ne sont pas publiés. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à être publié. Mon premier roman avait été refusé par 13 éditeurs. Enfin, je vous rassure, il était très mauvais. Ce n'est pas un très bon livre. Et donc, heureusement, je ne l'ai pas publié. Mais donc, j'ai connu cet enfer de la non-publication. Mais ce que je trouve formidable, c'est que quelqu'un ait envie, justement, de mettre sa vie en mots et envie de s'adresser à un lecteur. Et ce goût pour la littérature, eh bien, je le trouve admirable, même quand il n'a pas de consécration.
Que je vais terminer en vous assurant d'une chose. Vous avez dit au début de l'émission que ce livre, vous auriez voulu le lire à 18 ans, je crois. Je suis persuadé que si l'on met ce livre entre les mains de jeunes hommes ou de jeunes filles de 18 ans aujourd'hui, il y a des vocations, en tout cas de lecteurs et peut-être d'écrivains qui vont naître. Et donc c'est une très belle réussite, c'est certainement nécessaire. Et pour moi-même, c'est la perspective de soirées et de journées de lecture. Donc, en mon nom, mais aussi au nom de nombreux auditeurs qui vont acheter votre livre, nous vous remercions très chaleureusement. Et puisque malgré tout, vous nous avez proposé de nous prendre par la main, au-delà de cette invitation à la lecture, que conseilleriez-vous à un lecteur d'aujourd'hui ? Je ne vous demande pas un nom d'ouvrage, mais un état d'esprit ou une façon de procéder. Quel conseil donneriez-vous à un jeune lecteur ? Voilà, un jeune homme de 18 ans ou une jeune fille de 18 ans aujourd'hui, comment aborder ce continent de la lecture et de la littérature ? Dans quel état d'esprit ?
Eh bien, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, je vais pas dire de lire mon livre, parce que ça aurait l'air...
Ça, c'est acquis. Bon,
mais je crois qu'il faut essayer de ne pas avoir de préjugés. C'est ça qui est important. Vous savez, très souvent... On dit, oui, un tel, c'est un bon écrivain, mais il a telle conviction politique. Voilà. Je crois que c'est important d'essayer, dans l'amour de la littérature, d'essayer de ne pas avoir de préjugés. C'est idiot de penser qu'il y a des gens de droite, des gens de gauche, des gens des lepénistes, des républicains, des socialistes. C'est absurde. Ce qui est important dans la littérature, c'est de s'élever au-dessus de tout ce qui nous sépare. Et la politique sépare. Mais je crois que la littérature peut rassembler les hommes au-dessus d'eux-mêmes, dans cette vie dont je parlais, j'en ai beaucoup parlé peut-être trop, dans cette vie de l'esprit, qui est finalement ce qui est le meilleur de l'humanité.
Merci beaucoup Jean-Marie Rouard. En guise de conclusion finale, je rappelle, car c'est la piste, c'est le début du chemin, les références de votre livre. Il s'appelle donc très joliment « Ses amis qui enchantent la vie », collection Passions littéraires, les Passions littéraires, aux éditions Robert Laffont, donc par Jean-Marie Rouard de l'Académie française. Et tout cela pour tout cet univers, pour le modique somme, je chausse mes lunettes de 24 euros, un continent entier à portée de main. Merci beaucoup.
Merci.